Et bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce 18e numéro de la deuxième saison de Culture Saint-Yor. C'est l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple Saint-Yor. Ce soir, nous reviendrons d'abord sur la qualification des Lensois pour les 16e de finale de la Coupe de France grâce à leur victoire 1-0 hier après-midi. C'était en terre poitevine et qu'une armada de chroniqueurs Culture Saint-Yor, puisqu'ils sont quatre avec moi ce soir. Il incarne d'abord la sagesse, il a toujours le mot juste, son fan club sera ravi de le voir ce soir. C'est Damien d'Hervé-Duven qui est avec nous pour débattre. Salut Damien.
Salut Valentin, salut tout le monde.
Il porte le nom d'un ancien Lensois qui a surtout brillé sous le maillot du LOSC, mais bon, on va pas lui en vouloir puisque c'est le Racing qu'il a dans la peau. Thomas Fauverg, secrétaire de la section Excellence, nous accompagne aussi. Salut Thomas.
Bonsoir à tous.
C'est à se demander s'il n'est pas supporter des Dragons Poitevin hier, puisqu'il nous a avoué avoir arpenté la pépinière dans sa jeunesse. Guillaume Péard est notre troisième chroniqueur. Salut Guillaume.
Salut Valentin, salut à tous les supporters lensois.
Et enfin, il va réaliser un exploit incroyable, débriefer un match qu'il n'a pas vu. Heureusement, son expérience d'ancien joueur professionnel parle pour lui. Sébastien Dallet complète l'équipe ce soir. Salut Seb.
Bonsoir Valentin, bonsoir tout le monde.
Messieurs, retour sur le presque traquenard Poitevin ce soir. On va débriefer la victoire 1-0 du Racing dans la première partie de l'émission. Les Lensois ont fait le travail, est-ce que ça vous a convaincu? Vous me le direz. À la mi-temps, place au quiz de Culture Saint-Yor, évidemment. Et puis, dans l'actu du Racing, on fera un gros point mercato. La signature récente de Patrick Berg et les rumeurs autour de Seko Fofana. On évoquera aussi le tirage des 16e de finale de la Coupe de France qui nous offre un nouveau derby pour fêter la nouvelle année. Et puis, en fin d'émission, on se projettera, je vais y arriver en fin d'émission, sur la Ligue 1 et le déplacement à Nice qui nous attend dès mercredi. Réagissez, posez vos questions dans le chat Facebook ou YouTube de l'émission sur tous les sujets que l'on va aborder ce soir. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Juste avant, je vous rappelle, comme à chaque fois, que vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web culturesaintyor.com. Vous y trouverez plein d'articles sur le club. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux @culturesaintyor sur Twitter, Instagram et puis sur notre page Facebook Culture Saint-Yor. Pour commencer les débats, revenons sur le match d'hier après-midi à Poitiers. Les hommes de Francaise nous ont offert un match sobre mais efficace, victoire 1-0 grâce au but d'Ignatius Ganago. Pourtant, ce match avait quand même tous les aspects, du parfait traquenard, notamment ce champ de patates, je me permets de le dire, en guise de terrain. Peu propice au beau jeu, messieurs. Pour débuter, première question, j'attends une réponse plutôt rapide, pas trop de détails pour l'instant. Est-ce que cette victoire vous a satisfaite? On va commencer avec Guillaume. Au moins c'est clair. Non. Thomas, est-ce que cette victoire t'a satisfaite?
C'était l'objectif, c'est réussi, donc oui.
Damien?
Oui. Mais. Oui,
quand même. Et Seb, une victoire en Coupe de France face à une équipe plus faible et que on peut se satisfaire quand même de cette victoire?
Je valide.
Tu valides également. Et ben, on rentre dans le vif du sujet, dans les débats. Et j'aimerais d'abord qu'on parle du début de match, messieurs. Le beau taux de Kevin Danseau dès la deuxième minute, les errements défensifs lensois, Poitiers qui frôle l'ouverture du score, et puis ce terrain quand même pas terrible. Qu'est-ce que vous avez match en 20 premières minutes, Guillaume? Qu'est-ce que tu t'es dit sur ce que ça pouvait donner?
Je me suis dit que ça allait être très compliqué. J'ai tout de suite senti que ça allait être un match de Coupe de France et que on n'allait pas réussir à se gérer, à se rendre le match facile. Moi, j'avais quand même comme objectif sur ce match, essayer de se qualifier. Ok, je comprends les oui par rapport à la qualification. Objectif aussi de pas prendre de but. J'avais comme aussi l'objectif de se reprendre un peu de confiance dans le jeu et de que nos attaquants ils puissent quand même marquer un peu. Voilà, on sait bien que les 4-5-0 parce que face à une équipe de 3-4 divisions en dessous, ça n'existe plus. Ça. On l'a vu les résultats ce week-end. Les N3, c'est des mecs, ils sont tous passés par des centres de formation, donc faut pas croire. L'écart de niveau sur un match, en plus, faut pas s'attendre à des gros écarts. Attendez quand même à mieux, et notamment à ce qu'on reprenne de la confiance, notamment dans le domaine offensif.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Thomas, de ce début de match? Est-ce que tu t'es dit, ah, là, ça sent quand même le traquenard, ce match? Qu'est-ce qui va nous arriver?
Bon, on le savait même avant de voir le début du match, en fait, que c'est le traquenard. On a vu le stade. On voit les vidéos de la buvette derrière le but avec la fumée, donc on savait que c'était le vrai match de coupe avec un terrain champ de patates dégueulasse, on peut y aller. Donc on savait qu'on n'allait pas pouvoir développer du jeu, puisqu'on est quand même sur des passes au sol plutôt que des longs ballons devant nous, donc le ballon qui rebondit à chaque fois, donc on savait que ça allait être compliqué. Ouais.
C'est ce que tu t'es dit en début d'émission, en début de match, en tout cas. Tu avais un petit peu la même sensation, Damien, toi, en ce début de match, tu t'es dit ça sent pas bon.
Je me disais clairement qu'on était assez catastrophique déjà, mais forcément, le terrain n'aide pas. Le terrain, c'est quand même une excuse qui peut être plus ou moins valable pour les deux équipes. Enfin, qui peut dire quel jeu pratique Poitiers à longueur d'année?
On connaît quand même le jeu du Racing et c'est sûr que sur un terrain...
Je sais, Valentin, mais l'excuse est valable pour tous les acteurs. Mais clairement, je me suis dit, ouais, c'est le traquenard, ça sent l'élimination à plein nez et ça va être très compliqué. Ça a été très compliqué, mais...
L'avenir nous a montré que non. Seb, toi, tu en as joué des matchs de Coupe de France un petit peu face à des petits poussés sur des terrains pas faciles, dans des ambiances un peu traquenard. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ces matchs, toi ?
C'est jamais des matchs faciles. Effectivement, on est attendu au tournant quand on est une équipe professionnelle. Forcément, la motivation est amplifiée dans l'équipe adverse. Donc, effectivement, tout ce qu'il y a autour, le terrain et cette ambiance... donne encore plus de force à l'équipe adverse. Après, quand tu fais ton métier, que c'est ton boulot, le résultat, c'est ce qui importe le plus. Donc, ce n'est pas Poitiers-Lens en Coupe de France cette année. Ça ne restera pas un match dans les annales. Et puis, la qualification, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'est pas la seule équipe à avoir gagné que 1-0 à l'extérieur. Donc, ce qu'on retient juste, je pense, voilà, c'est le résultat uniquement et la qualification.
Mais quand on est professionnel quand même, Seb, on a l'habitude quand même de jouer sur des terrains relativement, de bonne facture. Et on peut quand même être perturbé par un terrain un petit peu bosselé, un petit peu... je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, non, mais carrément, forcément. Mais après, on peut être perturbé par une équipe amateur sur un bon terrain aussi. Hein, le terrain ajoute forcément une complication supplémentaire. Mais c'est pas des excuses. Après, bien sûr que le jeu aujourd'hui, ça se fait beaucoup de passes au sol. Donc forcément, ça va pas aller dans le bon sens et ça va être plus compliqué. Mais il faut s'adapter. Quand tu es pro aussi, tu t'adaptes à l'adversaire, tu t'adaptes au terrain, tu t'adaptes à l'entourage. Donc voilà, encore une fois, vraiment le plus important étant, c'est que le parcours en Coupe de France continue. On n'avait pas été la risée de ce tour-là où on se fait éliminer contre une équipe plus faible. Voilà, donc c'est encore une fois place à Lille au prochain tour.
Il a fallu quand même au Racing presque 30 minutes pour s'adapter, comme tu dis Sébastien, pour prendre le contrôle du match. Mais quand c'est arrivé, ça a commencé quand même à montrer plutôt du beau jeu. En tout cas, on a vu une belle action qui a amené une frappe de Sotoka. On a également vu ensuite... la combinaison Fofana et Dara qui amène ce cafouillage et ce but de Ganago dans la surface. Derrière, le carton rouge pour les joueurs Poitevin. Et là, le match bascule finalement, puisque l'ouverture du score plus le carton rouge. On a vu des Lensois peu inquiétés ensuite, mais pas forcément capables de se mettre à l'abri jusqu'à la fin du match. Votre avis général sur la prestation de l'équipe sur ce match, Thomas, ton avis général sur ce match?
C'est moyen plus. On voulait la qualification, on l'a eu, et c'est vrai que si on avait eu le beau jeu et un score fleuve pour se mettre à l'abri avant, c'est sûr que ça aurait été mieux, parce qu'un 0 jusqu'à la dernière minute, après c'est direct prolongation à la fin du match, s'ils égalisent dans les dernières minutes, donc pas prolongation, tir au but, donc on n'est pas à l'abri de se prendre une égalisation si on ne se met pas à l'abri et de partir direct au tir au but, et sur une séance de tir au but, c'est qui tout double souvent, on l'a vu l'année dernière.
Ouais. Est-ce que les lancements étaient quand même à la hauteur de ce qu'on attendait?
On pouvait en attendre un peu plus quand même.
Ouais.
surtout sur les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires depuis le début de saison et les entrants pareil. Encore une fois, on attend peut-être un petit peu plus sur les entrées en jeu et l'envie ou l'envie. Parce qu'on a l'impression qu'on rentre et qu'on n'apporte pas de plus.
Guillaume, Lens a été gêné par le stade Poitevin ou finalement a eu du mal à s'adapter aux conditions?
Mais le problème, c'est qu'on est un peu gêné par tout le monde en ce moment.
Oui, c'est vrai aussi.
Le problème, c'est que défensivement, on n'est pas serein. Enfin, notre trio de défense centrale est même emmené par Kevin Danso. Bah, il est dans le dur, je trouve, Kevin Danso. Hein. Franchement, Ça respire pas du tout la sérénité. Hein. Enfin, le poteau de Poitiers, mais c'est le but. Enfin, le but, ça peut être un but gag, mais enfin.
C'est... Ouais. Il n'y a rien qui va sur l'occasion.
Et déjà, même le fait que je crois que c'est du coup Jordan, enfin c'est celui qui avait eu.
Cuvier, ouais.
C'est ça, que Franck, il a eu Rennes, là.
Ouais, c'est ça.
Bah, je sais pas comment il se retrouve face à Farinez. Après, bon. C'est... Donc, enfin, globalement, la sérénité défensive, c'était pas au rendez-vous. Et il faut quand même savoir qu'on n'avait pas fait tourner beaucoup l'équipe. Hein. Enfin, on n'était pas sur une équipe B. Hein. Enfin, faut se le dire. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus de changements, enfin, beaucoup plus de rotation dans l'équipe. Je ne m'attendais pas à voir Fofana. Hein. Je m'étais dit, Fofana, c'est bon, on va quand même le reposer un peu quoi, pour un match comme un Poitiers. Quoi. Ben, non, il jouait. Et bon, honnêtement, on aurait mis un autre, c'était pareil. Mais pas de sérénité défensive. Alors, la créativité, c'est vrai que sur un terrain comme ça, c'est difficile de combiner, de jouer en passe courte, etc. Voilà. Mais malgré tout, on attend. Enfin, moi, j'attendais mieux et je reste vraiment sur ma faim sur ce match. Hein.
Ouais. Mais est-ce qu'il ne faut pas savoir juste les gagner 1-0, ce genre de match finalement, sans être flamboyant? Je vois que tu t'acquiesces, Sébastien. C'est peut-être le cas sur ce genre de match aussi, forcément.
Ouais, c'est ce que je disais. On va pas en reparler de ce match. La qualification est ce qu'il y a de plus important. Après, bien sûr qu'on aimerait à chaque fois que les matchs que Lens nous emballe et qu'ils reprennent confiance défensivement, comme disait Guillaume, qu'offensivement on retrouve des actions, des combinaisons. Voilà. Encore une fois, je reste. Simple en disant que le plus important est la qualification et c'est ce qui a été fait. Voilà, tout simplement.
Johan Cellier qui nous dit match très moyen, on retiendra uniquement le résultat. C'est un petit peu ce que tu nous dis, Sébastien. Damien, toi, tu as été surpris quand même de cette fébrilité défensive du Racing face au Stade Poitevin. Qu'est-ce que tu en penses de ce match globalement de l'équipe?
Surpris de la fébrilité, bizarrement non, ouais. Parce que comme le dit Guillaume, en ce moment on est vraiment dans le dur défensivement, on retombe un peu dans les travers qu'on subissait l'année dernière, c'est-à-dire que il y a toujours cette boulette ou ce cafouillage ou enfin ce je ne sais quoi qui va toujours amener un but, cette occasion un but, voilà, c'est limite ça, parce que bon, Poitiers, bah, sur la première occasion, bah ouais, ça peut faire but sur une action anodine, en fait, sur une boulette, sur un fait de jeu.
C'est presque une triple boulette, cette action.
Non, mais c'est ça qui est dingue. Ouais. Et l'année dernière, on subissait toujours un peu ce phénomène où ben, une boulette était égale à un but. C'était la plupart du temps Medina l'an dernier, ou même Badé qui a su en faire en début d'année 2021. Mais ouais, pas surpris, bizarrement pas surpris, même si c'était l'ogre Poitiers, on pourrait dire ça comme ça, mais non, mais ouais, c'est compliqué. En ce moment, c'est très compliqué pour nous, mais l'essentiel est là. On a été très très moyen, mais ouais, on est qualifié. On aura là un beau match face au LOSC à disputer. Alors, est-ce que c'est pas le meilleur match justement pour dire de lancer l'année 2022 et de repartir sur.
On en parlera dans un instant.
C'est pas mal. Donc, non, justement, l'essentiel est là. On a le droit à un match face au LOSC en Coupe de France et à domicile.
Et finalement, la qualification, c'est ce qu'on retient presque de ce match, vu les conditions. Bon, on a vu quand même un Ignatius Ganago fêter son but avec une certaine hargne, peut-être à la hauteur de sa frustration depuis quelques temps, puisque c'est vrai que ça fait un moment hein, qu'on cherche le Ignatius Ganago qu'on a connu surtout l'année dernière. Prestation compliquée depuis le début de saison. Est-ce que ce but peut être le déclic pour lui? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas?
On l'espère. Mais c'est vrai que vu sa rage, on sent qu'il y avait un petit souci de confiance et de frustration, donc on espère qu'il nous mette un petit doublé à Nice.
Surtout face à son ancien club. Guillaume, tu penses qu'il avait besoin de ce déclic, de remarquer un but, Ignatius Ganago, pour se relancer?
Ah bah, je crois que sa réaction en est la plus belle preuve. Après, moi, c'est vrai que sur ce match, je retiens deux choses. La qualif, on l'a dit, il n'y a que ça que je retiens, et quand même Ganago qui marque un but. Ça, c'est quand même un point positif. Après, c'est juste pour préciser, moi, si mes attentes, elles ne sont pas remplies par ce match-là, le Poitiers-Lens, il serait arrivé 3 jours après Lens 3, le 4-0. On aurait fait ce match-là, ça ne m'aurait pas posé de problème. Le souci, c'est que là, on est sur 5 matchs où comptablement, c'est pas bon. Enfin, comptablement, on sent qu'on est en difficulté. Donc, Poitiers-Lens, c'était vraiment l'occasion de se relancer et de retrouver un peu de confiance avant d'aller à Nice. Et c'est ça qui me frustre, en fait. C'est pas de... Effectivement, on est pas là, on sait bien que c'est fini, la Ligue 1 qui va chez une N3, il leur met 5-0 à la mi-temps, bye-bye, allez, en deuxième mi-temps, on ferme. C'est pas ça. On sait que c'est plus ça, maintenant, la Coupe de France.
Mais est-ce que gagner un match, finalement, c'est pas retrouver la confiance, déjà?
Ouais, mais enfin... on a oublié de dire, ils ont passé 1h10, quasiment.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Vous avez vu la différence qu'il était à 10? On n'a rien vu.
On a alors pas vu après, il y a peut-être un phénomène, enfin excuse-moi Guillaume, du coup je me permets de te couper, mais et Sébastien me confirmera peut-être ça, mais psychologiquement, est-ce que le fait de jouer 3 jours après à Nice, qui est un match très important pour nous, hein, on joue entre guillemets un concurrent, du moins sur la haute partie de tableau, est-ce que psychologiquement justement ça n'amène pas les joueurs à lever quand même le pied, à pas y aller ne serait-ce même qu'à 60 ou 70% et de se dire bon on va éviter la blessure, on va juste gérer tous nos efforts, toutes nos courses, à la vue du terrain c'est pareil, on peut se péter une cheville à tout moment, donc on y va mollo, on gagne le match 1-0 et tranquille on y va. Je sais pas Seb, est-ce que ça peut jouer psychologiquement dans la tête d'un joueur?
Non, mais je suis tout à fait d'accord, bien sûr, faut pas se leurrer, faut pas mentir, ça y joue, tu arrives à Poitiers, tu vois le terrain qui est merdique, tu te dis « oh là là, faut surtout pas qu'on se fasse éliminer parce qu'on n'est pas bien en ce moment ». Donc, il manquerait plus que ça qu'on se fasse éliminer. Voilà, donc ils ne se sont pas fait éliminer, on s'est qualifié 1-0. Certes, a priori, un match effectivement compliqué, pas très joli à voir. Mais comme tu le dis, effectivement, Damien, il y a aussi ce côté-là où tu vois l'état du terrain, tu vois la ferveur, l'ambiance. Tu veux juste te qualifier, essayer effectivement de gérer, même si on sait que ce n'est pas forcément la meilleure chose de se gérer pour éviter les blessures, autant jouer quand même à fond, mais quelque part inconsciemment ou consciemment aussi, effectivement, tu es moins motivé, tu as moins envie, et puis tu fais attention parce qu'effectivement, il faut reprendre la victoire et tu vas à Nice, qui, on sait que ça va être très compliqué.
Bah oui, non, mais c'est peut-être aussi le Racing qui s'est dit bah, finalement on est à 10 contre 11, donc peut-être qu'on craint plus grand chose et qu'on peut se permettre juste de gérer et essayer d'en planter un deuxième. Bon, ils n'ont pas réussi, mais peut-être qu'ils se sont aussi finalement dit ça. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas?
Et c'est exactement ça. On le voit en début de deuxième mi-temps où on est plus dans la gestion. Poitiers n'est pas très dangereux non plus. Et Klos l'a dit, hein, il dit on était venu pour gagner, se qualifier cet objectif, on a géré et on a gagné 1-0. C'est sûr qu'on aurait pu se mettre à l'abri. On aurait dû se mettre à l'abri pour s'épargner une fin de match stressante. Mais voilà, encore une fois, l'objectif est atteint. Et moi, on peut gagner même en championnat tous les matchs comme ça, 1-0, en étant mauvais, moi, ça me va.
Après, c'est pas DN3. On joue pas contre DN3 en championnat aussi.
Non, mais c'est sûr. Mais même en jouant Paris, Marseille, Clermont, même si on gagne 1-0 et qu'on joue pas bien, moi, ça me va. Au final, l'important, c'est les 3 points.
Ce qui est important aussi, comme disait Guillaume, c'est le but de Ganago, parce qu'un attaquant, même si c'est en Coupe de France, tu marques, tu retrouves le chemin défilé, ça c'est important. Ouais. Peut-être ça peut l'aider effectivement aussi à aider l'équipe et débloquer quelque chose. Après, ce qui est dommage pour les entrants ou ceux qui ont moins de temps de jeu, c'est de ne pas pouvoir se montrer. Voilà, c'est ça qui est dommage pour eux, de ne pas essayer d'inverser la tendance et donner des choix supplémentaires au coach. Voilà, c'est un petit peu le regret, mais encore une fois, c'est des matchs très compliqués. Franchement, c'est on aimerait que ce soit la fête, mais bon,
franchement,
c'est compliqué. Et puis comme vous l'avez tous bien précisé, aujourd'hui, les équipes de N3, N2, c'est que des bons joueurs. Attention, il y a des bons coachs, il y a des bons joueurs, ça joue, donc c'est pas si simple que ça, vraiment.
Oui, donc finalement, et puis on a vu pas mal de victoires 1-0 de Ligue 1 face à des équipes bien inférieures ce week-end également. On a vu l'OM mener sur son terrain. Enfin, on a vu pas mal de choses qui nous disent que finalement, c'est pas si simple de même battre une N3 quand
même
on
Nice,
est. Même Nice qui gagne 1-0, Metz qui se fait sortir par Bergerac. Bon, voilà, on est passé par là nous aussi.
Angers.
Il n'y a que City qui met des 4-0.
Et Angers qui se fait sortir également. Non, mais je veux dire, on aurait pu attendre autre chose de ce match-là, comme le dit Guillaume, mais je comprends très bien. J'aurais aimé voir un lance bien plus joli sur le terrain. Mais dans ce genre de match de coupe, la qualif est aussi extra importante, surtout avec un match de Ligue 1 3 jours après. Et voilà,
et 3 qui se font éliminer au pénalty, face à Nancy, qui était 8.
Qui ont eu 3 cartons rouges, ouais, ça c'était improbable aussi. Tu voulais dire quelque chose?
Pour répondre à Damien et son argument de dans 3 jours il y a le match à Nice, je l'entends, Et dans ce cas-là, soit on fait tourner les joueurs, on met des mecs qui ne vont pas jouer à Nice, justement, et c'était l'occasion. Mais si on met cette équipe-là, c'est tout. Quand on a joué Clermont, on pense au match de Paris. Quand on joue à Poitiers, on pense au match de Nice. Quand on va jouer au match de Nice, on pense au match de Lille. Enfin, non, faut jouer les matchs qu'on joue. Et dans ces cas-là, c'est soit on fait tourner plus parce qu'on met des mecs qui, justement, ne se reposeront. Enfin, se reposeront, c'est des mecs qui ne jouent pas d'habitude et ils savent qu'ils ne joueront pas à Nice. Mais si on met l'équipe type, c'est pas pour. Si on met l'équipe type, ça veut dire qu'on veut faire la différence très vite. Ça veut dire qu'à la mi-temps, on veut que ce soit plié. Et si on met l'équipe type et qu'on ne plie pas le match, ça veut dire qu'on fait jouer Fofana. Il a joué combien de temps, Fofana? 70, 80 minutes? Sur un bourbier comme ça? Mais demain, il se fait les croisés, qu'est-ce qui se passe enfin? Non, je ne suis pas d'accord.
C'est une question de point de vue. Je peux entendre les deux avis. Et personnellement, je me dis aussi que peut-être il a voulu mettre la grosse équipe parce que psychologiquement, justement, il s'est dit voilà, l'expérience va faire qu'on ne va pas tomber dans le traquenard, quoi, plus que de mettre une valise à Poitiers aussi. Il y a peut-être ça aussi qui fait que.
Peut-être c'est un échange aussi avec les joueurs parce que je pense que Francaise a demandé à Seko Fofana s'il voulait jouer. Je pense. Il y a des joueurs comme ça qui préfèrent aussi jouer, donc peut-être, hein, je ne sais pas, hein, j'avance
non, bien,
quelque
t'as...
chose, mais souvent c'est ce qui se passe quand on est titulaire à part entière, quand on est plus est le capitaine du Racing Club de Lens. Je pense qu'il y a du dialogue avec l'entraîneur, et puis voilà, donc c'est peut-être aussi quelque chose de volontaire de la part de Fofana.
Dans le chat, on a Sébastien S, c'est pas Sébastien D, hein, c'est Sébastien S, qui nous dit « Ganago et Jean, c'est compliqué aussi, même si Jean était très collectif, c'était intéressant ». Et bien justement, je vais vous demander de noter Corentin Jean sur ce match-là, mes amis. Corentin Jean, que j'ai quand même trouvé un peu intéressant, surtout dans le pressing, on l'a entendu beaucoup se faire encourager par Francaise. Je ne sais pas si vous avez entendu, on entendait pas mal les coachs sur le bord du terrain. On l'a trouvé, on a entendu pas mal. Francaise lui dit c'est bien Coco quand il allait sur le pressing, là, sur les premières relances des défenseurs de Poitiers. Qu'avez-vous pensé du match de Corentin Jean? Une note pour Corentin Thomas. Et il ne s'y attendait pas, celle-là, Thomas.
Si. Pour une fois, j'aurais aimé passer. Non, mais alors. Alors, un attaquant, on lui demande de marquer. C'est très simple pour. Ouais. Parce que. Alors, déjà, j'aime pas être trop méchant. Et. Il y a tout son travail de l'ombre. Après, il joue bien le jeu sur le carton rouge. On a bien entendu crier aussi, là. ça nous a pas aidé pour la suite. Hein. On a joué à 10 contre 11, comme Jigam l'a dit, et on n'a pas vu la différence. À 11 contre 10, on n'a pas vu la différence. Mais voilà, 5 parce que le pressing, il n'a pas marqué, mais il n'a pas non plus. Perdu énormément de ballons, il ne nous a pas mis en difficulté non plus, donc 5 c'est cohérent, je pense.
T'as notre Guillaume pour Corentin Jean?
Bah là, je sais qu'il y a son agent qui est présent parmi nous, donc je suis un peu. j'ose pas. Et puis le problème, c'est qu'en plus, comme les spectateurs de Poitiers, ils étaient debout dans la tribune, moi je voyais pas le terrain.
C'est vrai.
La partie où
on voyait pas le poteau de corner, ouais, des fois, ouais.
En plus, Corentin, il est pas grand, donc les mecs de Poitiers debout, Corentin petit, côté droit, mais je l'ai pas vu jouer. Ah,
ouais, t'es de mauvaise foi là.
Non, je lui mets, franchement, bon, comme Thomas, hein, allez, 5,5, ouais, c'est. Ça a été un petit peu mieux que ses entrées précédentes. Rouge, bon bah voilà. Il était volontairement un terrain comme ça. Corentin Jean, c'est que c'est pas sa qualité première, c'est pas le physique. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est plutôt technique, qui est bon finisseur. Et malheureusement, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir dans ce registre. En plus, on était dans un espèce de 3-4-3 plutôt, parce qu'il n'y avait pas de numéro 10, il y avait plutôt notre attaque. Enfin, même si Sotoka décrochait un peu, on était plutôt sur une attaque à 3. Il était plutôt côté droit, bon voilà, il avait du mal à se situer, je pense. Mais bon, c'est quand même quelqu'un. Ce qu'on peut dire, Corentin Jean, c'est qu'il ne rechigne pas à la tâche. C'est quelqu'un qui lâche pas. Il est toujours dans le bon état d'esprit. Donc il mérite pas d'avoir en dessous de la moyenne pour ce match. Et donc je lui mets 5.
Et toi, le match de Corentin Jean, Damien, t'en as pensé quoi?
Ben, je vais être dans la même lignée que Guillaume et Thomas, alors je vais partir sur un 5,5 parce que ça a été compliqué malgré tout. Mais comme le dit si bien Guillaume, c'est qu'il ne rechigne pas justement. Et il a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes. Enfin, il faut le dire, c'est celui qui a subi le plus de fautes, qui a tenté le plus justement, qui a tenté le plus de choses, de faire déverrouiller justement ce verrou. Non, ben... Il a été intéressant, mais c'est compliqué. Il est dans le dur aussi, donc c'est pas le moment de le bâcher. On aura peut-être besoin de lui. Faut pas, parce que je voyais sur les réseaux que c'était limite un peu honteux les commentaires qu'il pouvait y avoir sur lui.
C'est un peu la tête de Turc en ce moment.
Voilà, enfin, et puis demain, s'il part, ce sera un autre. Donc, c'est compliqué pour Corentin Jean. Il ne faut pas non plus le bâcher. Enfin, ne mettons pas au pilori des joueurs qu'on a su aduler par le passé. Et voilà, enfin, il a fait.
C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant, parce que j'ai trouvé son match plutôt correct, voilà. Et vraiment intéressant.
Voilà, lui, c'est moyen plus par rapport à d'autres où ça a été moyen moins. Et voilà. Mais voilà, il ne rechigne pas, il y est toujours allé. Merci Coco.
Merci Coco. Bon, bah du coup, tu vas pas pouvoir noter son match, Sébastien, malheureusement. Hein.
Non, mais après, ce que j'entends me fait plaisir, parce que effectivement, Damien le souligne bien, et je pense qu'il est dans le dur comme pas mal de joueurs, mais lui d'autant plus, parce que je pense que tout le monde aimerait qu'il débloque aussi un petit peu son compteur but, qu'il soit un peu plus décisif, parce que il fait quelques entrées en jeu. Alors après, ce qui est important, c'est ce que vous dites, c'est qu'il travaille. Donc il est dans le dur, mais il travaille, il baisse pas les bras, il se donne à fond. Donc la moindre des choses, même si on n'est pas bon sur le terrain, c'est d'avoir les valeurs qu'on veut porter, de se battre et voilà. Donc au moins mouiller le maillot à Lens, je pense que déjà c'est la première des choses à faire. Donc bon ou pas bon, c'est autre chose, mais au moins c'est bien.
Pour terminer sur ce débrief et avant de passer au quiz de la mi-temps, messieurs, est-ce que vous avez un carton rouge à décerner sur ce match? Prenez la parole si c'est le cas. N'hésitez pas surtout.
Ouais. Anecdote, mais c'est on a vu l'arbitre, je pense. Voilà.
Oui,
à 90e.
Oui.
Alors, mais nos amis Poitevin, là, bon, dédicace à mon oncle Jacques et à mon cousin Christophe, là, qui habite à 500 mètres du stade, hein, déjà. Mmh. Donc, et on entendait quand même des chants pas très agréables du public Poitevin. Et lui qui se la joue, footballeur et il se la joue joueur et il chambre le public. Enfin,
ouais, en levant la main comme ça, en faisant comme ça, ouais. Non, mais
c'est un peu surréaliste.
Et a priori, il a continué en sortie du terrain, il s'est fait aussi conspuer par le stade. Mmh. Et a priori, il a continué. Enfin, ouais. Il a vu ça où? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tony Chaperon bis quoi. Tony tacle et lui il chambre. Enfin, c'est.
Non, il a peut-être pas gardé son sang-froid. Bon, après, c'est pas non, il a pas non plus de fait de geste obscène, je veux dire. Bon,
non,
voilà.
C'était plutôt en mode. Il avait l'air de
rigoler.
De jouer.
Ouais, de jouer. Ouais. Mais bon, après, quand il se prend des insultes comme il se prend pendant un quart d'heure, bon, bah voilà. Ouais. C'est sûr que ça remet de l'huile sur le feu, ça, on est d'accord. Mm. Donc, petit carton rouge, c'était monsieur Miguel Gori, il me semble.
C'est ça.
L'arbitre de ce match. Quelqu'un d'autre pour un carton?
Ouais, la blessure de Danso, mais ouais. Parce qu'on a des nouvelles, j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
J'en ai pas, c'est vrai que dans le chat on nous posait la question aussi, j'ai pas vu si.
Ça parle de Fortanis, mais j'en
sais pas. Ouais, bah on en reparlera sur la projection Nice, mais c'est sûr que sans Danso et Medina, ça va être compliqué derrière. Mais on en reparlera tout à l'heure en deuxième partie. Eh bien, on en a fini pour ce débrief, messieurs. Dans un instant. On passera à l'actu du Racing en deuxième partie d'émission. On fera un gros point mercato dans cette actu du Racing. Mais d'abord, il est temps de siffler la mi-temps, messieurs, et de jouer. C'est parti. Sébastien, je t'attends au tournant sur ce quiz. Comme les trois autres qui t'accompagnent, évidemment. On a joué de la Coupe de France ce week-end. Je vais vous demander une composition de match de Coupe de France du Racing Club de Lens.
Très lasé.
Non, pas du tout. Une demi-finale de 1994. Alors là, Sébastien, tu ne peux pas te tromper. Hein.
Ouais.
Lens-Montpellier, demi-finale de la Coupe de France 1994. Je vous demande la composition du Racing Club de Lens et on va commencer avec Sébastien.
Bon, on va commencer par Jean-Guy Wallem.
Jean-Guy Wallem, c'est bon. Allez, on va passer à Thomas.
Bormuse.
Guillaume Varmus, c'est bon. Damien.
Moi, je vais tenter Sico.
Eric Sicora, c'est bon. Guillaume.
Fred Mérieux.
Fred Mérieux, c'est bon. Sébastien.
J'espère qu'il était titulaire à ce match-là. Pierre Lègle.
Pierre Lègle, c'est bon. Oui, oui. On passe à Thomas.
Boli.
Roger Boli, c'est bon. Damien.
Ah, c'était celui que j'avais. Camara.
Bah non, pas Camara, non. Malheureusement, mon cher Damien. Guillaume.
Bah moi, je vais dire Sébastien Dallet.
Bah oui, quand même. C'est quand même incroyable.
Il a même pas dit ça.
Personne me donne Sébastien Dallet depuis tout à l'heure. Sébastien.
Jimmy Adjovi-Boko.
Ouais, c'est bon. Adjovi-Boko. Thomas.
Joël Thiéhi.
Malheureusement, pas de Joël Thiéhi. Thomas, il nous reste Guillaume et Sébastien. On passe à toi, Guillaume.
8. Je vais dire Fred Déhu.
Eh bien non, pas de Fred Déhu. Oh, malheureusement, Guillaume. Allez, Seb, tu nous en donnes encore un.
Hervé Arsène.
Hervé Arsène, c'est bon. Bravo, Sébastien. Tu remportes le quiz de Culture sans or. Bravo, Sébastien.
Merci du cadeau.
Il y avait Mani. Il y avait Mani encore.
Non, on non, avait François Manbiik.
Ah ouais, Manbiik, ouais.
Ouais, François Manbiik et un certain Didier Dubois que je ne connaissais pas.
Didier Dubois.
Ouais. Ouais. Voilà, c'est les
qui
deux
qui jouaient derrière avec Jean-Guy, ouais.
Avec Jean-Guy, ouais.
Ouais. Ouais. Voilà, c'est une victoire de Sébastien Dallet. C'était un petit cadeau, ouais. Seb, pour que tu te relances un peu dans la machine.
Je reprends confiance, mais là, en même temps, si.
Et tu ne t'es même pas cité toi-même en plus.
Cité ton nom.
Ouais. Mais non.
Beau joueur, bravo. Bon,
on a perdu malheureusement.
Ouais. Défaite 2-0.
C'est pas faux d'avoir cherché des pénaux, Seb. Hein. C'est pas faux d'avoir essayé de trouver des pénaux.
Et il y a pénalty, tu sais que ça, c'est. Franchement, il y a pénalty. C'est un truc de dingue. Avec l'Avar aujourd'hui, c'est sûr. Enfin, on sait pas alors, du coup. Mais il y avait pénaux.
Monsieur Ramos.
Allez, on va passer à la deuxième partie de l'émission, messieurs. Et à l'actu du Racing Club de Lens, on va commencer par faire un gros point mercato avec. Deux infos que j'ai envie de vous donner. D'abord, la signature, c'est officiel depuis tout à l'heure de la part du Racing, du milieu défensif norvégien Patrick Berg, qui jouait à Bodø/Glimt, double champion de Norvège, qualifié en Conference League cette saison. Le milieu norvégien technique, qui ne rechigne pas à l'impact également. Moi, je le vois un petit peu comme un mixte entre Doucouré et Kakuta, personnellement. En tout cas, c'est une bonne pioche pour le Racing. Est-ce que c'est un bon coup qu'il a fait, le Racing, sur ce Norvégien, Damien ?
À partir du moment où c'est un joueur qui a connu des sélections en A dans l'équipe de Norvège, on peut se dire que bon, ça peut être un bon coup. Après, je ne suis pas suffisamment le championnat norvégien pour pouvoir me prononcer beaucoup plus, mais visiblement, de ce qui se dit sur Twitter, de la part des suiveurs en tout cas de ce championnat, ça a l'air d'être un super coup qui était suivi par l'Atalanta Bergame. Donc bon, on peut se dire que c'est plutôt pas mal. L'Ajax, donc des équipes qui ont du ballon, donc ça donne quand même la tendance pour nous à l'avenir. C'est certainement ce qu'il nous manquait, parce que bon, même si on aime tout ce qu'a eu, je pense qu'il fallait quand même quelqu'un pour pouvoir suppléer à Seco ou au Tchèque, mais voilà, à voir, mais ça peut être une très bonne surprise.
Le Racing est attractif, hein, Thomas, avec cette signature de l'international norvégien.
Ouais, c'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'on est attractif et qu'on on passe devant certains grands clubs ou plus grands clubs ou plus huppés que nous. Après, concernant Patrick Berg, on verra l'adaptabilité. C'est son premier transfert.
Ouais.
C'est la première fois qu'il va quitter son pays et jouer ailleurs qu'en Norvège. Et même de changer de club. Après, sur le joueur lui-même, pareil, hein, je suis pas assez ou même pas du tout le championnat norvégien pour me prononcer. Mais si c'est le meilleur joueur et il a été champion de Norvège, ça peut pas être une pipe. Hein.
Ça c'est sûr. Bah, pour suivre, j'avoue que le confinement m'a un peu fait suivre l'élite syrienne, parce que c'était le seul championnat qui avait encore lieu l'année dernière, en 2020. Donc j'avoue que j'avais un peu commencé à suivre à l'époque le FK Bodø/Glimt, et j'avoue que c'est une belle pioche pour le Racing, en tout cas en termes de technique et en termes de distribution de caviar, en termes de réussite aux passes. Je pense qu'on peut se régaler, qu'il peut assez facilement s'adapter au Racing Club de Lens. Et puis en termes de mentalité aussi, hein, et on sait que c'est important, hein, pour l'équipe, que la mentalité, c'est quelque chose, et je pense que ce joueur-là peut aussi apporter quelque chose dans l'équipe. T'en penses quoi toi Guillaume?
Moi j'en pense que si l'Atalanta était sur ce joueur-là, et nous aussi, c'est qu'en fait on commence à être un peu sur les mêmes profils que l'Atalanta, et c'est un peu on nous présente comme l'Atalanta à la française, donc c'était plutôt flatteur pour nous, exactement. Donc on est sur les mêmes profils qu'eux, donc c'est intéressant. Alors peut-être qu'on a réussi à vendre un projet à lui garantir, alors on ne garantit pas tant de jeux, mais à lui dire qu'il aurait l'occasion de jouer chez nous assez rapidement. Moi, ce que je retiens, c'est que je pense que entre Doucouré et Fofana, c'est un profil du coup qui va être un peu hybride entre les deux, un peu différent, un peu technique, un peu peut-être moins puissant que Fofana, mais peut-être un peu plus technique. Et donc, du coup, c'est bien d'élargir la palette au milieu, parce que c'est vrai qu'on était quand même pauvre, hein, surtout Cahuzac, que je pense que cette année, on sent quand même. Alors, il joue de moins en moins, du coup, il a de plus en plus de mal à retrouver le rythme. Et je pense que cette année, au duo de ses 36 ans, elle commence vraiment. Ça commence à être un peu compliqué pour lui.
Il est en fin de contrat, il me semble, d'ailleurs, qu'il y a eu.
Et il est en fin de contrat, comme Jean-Louis Lecoq, d'ailleurs, je pense, à la fin de saison. Donc, c'est bien. Après, moi, je pense clairement que c'est une anticipation du mercato d'été. C'est uniquement une opportunité par rapport au champion norvégien qui lui est sur l'année civile. Du coup, il lui reste un an de contrat et donc on le fait maintenant. Mais faut pas, moi, j'y vois pas du tout un truc. Il nous fallait un milieu en deuxième partie de saison parce que Trucmuche ou Fofana ou machin va partir. Moi, je le vois pas comme ça. On est sur un marché concurrentiel. Il y avait aussi le Celtic Glasgow. Il y avait donc des clubs considérés moyens. A priori, déjà cet été, après, je pense que c'est difficile de faire sortir un joueur de Norvège en plein été parce qu'ils sont au milieu de championnat. C'était l'occasion, on anticipe un peu comme un Booba Diop, on avait fait ça en 2002 parce qu'on l'avait anticipé 6 mois avant la Coupe du Monde. Et voilà, donc c'est pour moi, c'est une opportunité de marché, c'est pas pour forcément qu'il joue tout de suite, c'est justement lui laisser 6 mois d'adaptation. Et effectivement, peut-être que l'été prochain, on va avoir le départ sûrement de Fofana ou Doucouré, ou les deux. Donc il faudra reconstruire le milieu. Et si Berg, il a déjà 6 mois avec d'adaptation, comme on le dit, comme Thomas le dit, premier transfert, etc. Donc il faut quand même qu'il s'adapte à un pays, à une culture, à une langue, à un nouveau groupe. Du coup, ces 6 mois-là, on sera content d'avoir quelqu'un qui aura déjà 6 mois d'immersion dans le club et qui sera sûrement opérationnel plutôt à partir de la saison 22-23.
Apparemment, il parle déjà très bien anglais, hein, donc c'est déjà quand même un avantage pour lui. Pour finir sur Patrick Berg, t'as vu un peu les infos, Seb, qu'est-ce que t'en penses? Tout a été dit ou tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, écoute, je crois que Guillaume a été complet, donc rien à rajouter. Non, franchement, je pense
ça
que...
Ça montre quand même l'intelligence du staff encore. L'intelligence du staff d'anticiper malgré tout. Et puis ça apporte quand même un joueur supplémentaire sur cette deuxième partie de saison. Parce que s'il est là, il ne va pas faire banquer.
Il va jouer.
Il va jouer. Voilà, malgré tout. Donc, encore une fois, une belle intelligence du staff. Et c'est à souligner également. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Pour le Viking norvégien, comme ils l'ont appelé dans la vidéo de présentation. Au club. Deuxième info, Mercato, là ça fait un petit peu plus grincer les dents, mais c'est cette rumeur Seko Fofana, malgré tout. Et c'est pas qu'une rumeur, hein, d'après les bruits de couloir, il y a un fort intérêt de Newcastle pour Seko Fofana. Ça se dit en tout cas en coulisses. Cette rumeur qui atteste d'un énorme intérêt donc de Newcastle. Est-ce qu'il peut partir dès janvier? Est-ce que vous voyez partir Seko Fofana dès janvier s'il y a un gros chèque qui est mis par Newcastle sur la table du Racing, Damien?
Oui, clairement oui, parce que si Newcastle donne 30-35 millions, faut s'imaginer ce que ça fait pour un budget, en termes de budget pour un club comme Lens. Hein. On est à 50 millions de budget, si on récupère 30-35, même si c'est Seko Fofana, on est tous d'accord pour dire que c'est un énorme joueur. Clairement, il faut... Surtout avec la période actuelle, on est dans une période pas évidente avec le Covid. Une telle manne d'argent pour un club, je pense que c'est difficilement refusable. Après, pour le joueur, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que Newcastle est dernier de Première Ligue, ça va être très 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 compliqué pour eux.
Pour Seko, pour choisir finalement s'il a vraiment envie de partir dans ce bourbier-là, ça peut aussi être difficile.
Ça peut être très difficile. Enfin, honnêtement, c'est très compliqué à voir quel joueur il y aura également autour. Parce que on se doute que Newcastle va recruter à l'appel et à coup de gros chèques. Mais même comme ça peut être compliqué. Mais il retrouverait un championnat qu'il connaît bien. Il a été formé au niveau de Man City. Donc pour lui, déjà en termes de passeport et tout ça, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour y retourner. Donc... Ça rend plus crédible la piste, en fait, parce qu'on sait que c'est compliqué pour aller jouer en Angleterre, mais là, tout de suite, ça la rend beaucoup plus évidente. Il a déjà été suivi par le passé. Ouais, et pour le Racing, ça peut être un très joli coup financier, mais à voir, à voir.
T'as des craintes, toi aussi, Thomas, sur un départ de Fofana dès le mercato de janvier, là?
Moi, des craintes, oui, parce que pour moi, sur ce transfert, il y a trois points importants. Il y a d'abord, nous, le sportif pour Lens, ce serait forcément une grosse perte, puisque c'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison. Il nous apporte énormément, c'est notre capitaine, donc forcément, point de vue sportif, je ne veux pas qu'il parte, que ce soit là, cet hiver ou cet été. Financièrement, Damien l'a dit, voilà, on ne peut pas cracher sur 30, 35 ou 40, peut-être si on fait monter les enchères avec Newcastle, mais c'est sûr qu'on ne peut pas cracher dessus. Mais après, que veut le joueur? On le sent épanoui, heureux à Lens.
Je suis pas sûr s'ils veulent quitter Lens, qu'ils veulent partir à Newcastle. Hein.
Non, je ne suis pas certain. Mais peut-être que ça peut permettre de faire monter les gens chers pour un transfert cet été, peut-être à Paris, ou parce qu'eux l'ont vu en direct, sa performance assez exceptionnelle contre Paris. Donc, voilà. Moi, je veux pas qu'il parte. Je pense pas que le joueur veuille partir non plus cet hiver.
T'en penses quoi, Guillaume? Toi, tu disais non, il peut pas partir dès le mercato de janvier, j'ai l'impression.
Moi, Fofana, honnêtement, il est inscrit dans un dynamique collectif de groupe. Ils ont démarré une saison ensemble. Alors après, c'est le foot, hein, on sait bien les pressions et machin. Mais moi, je pense que si tu lui demandes à lui à froid, il te dit qu'il veut terminer. Il veut terminer à Lens sa saison et peut-être effectivement partir cet été. Ensuite, Newcastle, bah ok, ils ont de l'argent, c'est bien. Si vraiment ils veulent nous le sortir là au mercato, il va pas falloir 35 millions. Hein. J'espère qu'on va être ferme, hein, parce qu'on peut pas s'appauvrir comme ça. Ok, on est dans le Covid, etc. Mais dans 6 mois, Fofana, il va pas perdre sa valeur, il va pas être divisé par deux. Hein. Donc, j'ai envie de dire à moins de 50 millions au mercato d'hiver. Mercato d'été, c'est différent. Mercato d'été, 30-35 millions, ok. Et là, en hiver, c'est pour moi, c'est plus cher. Et ils ont plein d'argent, et ben voilà, c'est les nouveaux pigeons, ben c'est bien. Paris, ils ont donné leur place à une nouvelle équipe, et ben un nouveau club, et ben faut dans ce cas-là, s'ils veulent faire les pigeons, allez-y, mais c'est 50. Et je pense que s'il y a 50 millions sur la table, et ben alors je veux pas comparer avec Drogba, mais Fofana, même s'il veut rester, ben ils vont lui dire sûrement qu'on va le forcer à partir, et c'est quand même ça, c'est.
Ben mais ce sera un choix cornélien malgré
ouais, parce que c'est une aventure c'est quand même un groupe, une bande de potes, on le voit bien quand même quand tu lis les interviews de Fofana, il le dit, il a jamais vu un groupe comme ça. Je pense que si un jour il sait que ça va se terminer, mais je pense que même quand ça se termine, il doit s'y préparer psychologiquement quelques mois à l'avance, dit bon voilà, j'ai pris ma décision, je m'en vais au mois de juin, ok. Mais là on est, enfin, il était encore dans Lens PSG, il était encore dans l'actualité du Racing, le quotidien. Et puis là, dans 15 jours, il va faire ses bagages, il va partir à Newcastle. Enfin, ça va être dur pour lui parce que je pense qu'il n'est pas prêt, quoi. Enfin, ouais, il n'a pas pris sa décision et c'est pas lui qui prendra cette décision-là, en fait. Il sera obligé peut-être d'accéder à ça. Mais bon, ok, il va sûrement tripler son salaire et puis ok, mais dans 6 mois aussi, il va le prendre son énorme salaire.
Je pense pas qu'il soit dans cette mentalité de tripler son salaire forcément. Donc,
non, voilà. Mais de toute façon, sinon, il serait pas venu chez nous.
Oui, déjà. Pour finir rapidement sur Seco, Sébastien, tu as peur, toi, qu'il parte dès le mercato d'hiver, là? Tu crois que c'est possible?
Bah écoute, je suis un peu d'accord avec tout le monde, et notamment 50 millions, Newcastle dernier, ils sont obligés de le prendre maintenant. Donc s'il doit partir, c'est maintenant. C'est clair et net. Newcastle, s'ils le veulent, c'est pour se sauver. Il reste 6 mois en Angleterre, donc effectivement, comme Guillaume dit, ils ont de l'argent, ils vont recruter quelques joueurs. Après, ils risquent de tomber dans un club où ça va être compliqué, parce que quand tu recrutes comme ça pas mal de joueurs à l'intérieur, enfin, au mercato d'hiver pour essayer de te maintenir, ouais, ça va être un peu des mercenaires, les mecs, ça va être un peu étonnant, bizarre à vivre. Mais après voilà, tu as un chèque de 50 millions, tu fais quoi?
Bah oui, non, mais c'est en ça que.
Oui, les 50 millions, mais.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que. Moi, j'avais entendu parler plus ou moins de 50 millions, hein. J'avais pas entendu 30-35. Hein.
C'est sûr que la question pourra se poser, en tout cas, on verra ce qu'il en est et on verra au mois de janvier si la rumeur se fait de plus en plus pressante.
Ça serait une grosse perte, effectivement, pour Lens.
C'est sûr que ça serait une
grosse perte. Tu perds ton capitaine et voilà. Donc, ça, c'est clair que ça serait pas une bonne nouvelle du tout.
Bon, déjà, on le vend pas avant le 4 janvier déjà. On le vend le 5 éventuellement, mais pas le 4.
Et justement, en parlant du 4 janvier, puisque c'est la date qui a été choisie pour le 16e de finale de Coupe de France entre le Racing Club de Lens et le LOSC. Et oui, le tirage au sort nous a offert un nouveau derby juste après la nouvelle année, et ça a été fixé au mardi 4 janvier. Nouveau derby, une nouvelle fois à domicile, on est gâté. Messieurs, ravis ou déçus de tirer une Ligue 1 aussi rapidement dans cette Coupe de France? Ben, il va falloir me le dire, Damien.
Ravi. De toute façon, si on veut la gagner, ben, faut savoir jouer tout le monde à n'importe quel moment. C'est tout, ça nous mettra vraiment dans le sprint de la Coupe de France. On éliminerait probablement un gros, parce que bon, le LOSC, on n'est pas du tout sur la même planète, hein, d'un point de vue finance justement, et d'un point de vue joueur, c'est autre chose, même si on les a battus en championnat. Mais ouais, non, et encore une fois, je le redis, ça peut vraiment lancer notre deuxième partie de saison. Alors, ça peut très bien donner l'inverse si malheureusement on venait à perdre, mais si on gagne, c'est un match qui peut nous lancer et qui peut nous lancer, mais à tous les étages, que ce soit au niveau des joueurs, du staff, mais aussi au niveau du public, où ça pourrait relancer une nouvelle dynamique avec une belle fête en tribune. Non, franchement, c'est bien. Je pense que c'est le bon moment là. C'est même en termes d'adrénaline, ça, c'est intéressant. Ça va être pas mal.
Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume, toi? Est-ce que le Racing, finalement, c'est bien de jouer le LOSC si rapidement, puisque finalement, c'est pas aussi simple à sa Poitiers, autant jouer le LOSC qu'un derby à Bollard?
Ah non, moi, je suis pas du tout d'accord.
Non.
Non, non, parce que pour moi, c'est beaucoup trop tôt dans la compétition.
Ouais.
Et ce qui me fait surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est que autant au mois de septembre, les dynamiques de Lens et de Lille étaient dans un sens qui nous donnait beaucoup de confiance, même si, attention, on est toujours très prudent par au derby par rapport à toute cette histoire. Mais là, clairement, depuis, les courbes, elles se sont croisées, quoi. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. En championnat, ils ont recollé un peu au classement. Et nous, on est dans la... On n'est pas dans un creux. Dans un creux. Donc moi, ça m'inquiète complètement de jouer Lille avec le risque du coup de pas se qualifier du coup et finalement que notre victoire dans le derby en championnat et sur laquelle je comptais capitaliser encore pendant quand même encore 5-10 ans.
Au moins jusqu'au match retour.
Jusqu'au match retour, on va dire ouais. Qu'on puisse déjà.
C'est à double tranchant, on pourra aussi fanfaronner deux fois plus.
Ouais, mais là-dessus, honnêtement, dans la période actuelle, je pense que au mois de mars-avril, si on était mieux, pourquoi pas, mais bon. Bravo. On a la chance d'être à la maison, voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver de positif.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas, de ce match face au LOSC, ce nouveau derby?
Bon, c'est toujours intéressant. Après, sur la dynamique, il y aura la trêve entre deux, donc... On peut se refaire une petite santé, un petit moral, reprendre du physique et entamer un mois de janvier qui va être quand même assez délicat. Il était déjà pas mal avec Rennes, Saint-Étienne et Marseille. On rajoute Lille direct après le nouvel an.
Ouais.
ça va être compliqué forcément. Mais est-ce que c'est plus compliqué que d'aller jouer à Poitiers un dimanche à 13h15?
La question se pose, ouais.
Sur un Bourbier. Ça va être compliqué, mais différemment.
Mais ça fait moins mal de perdre à Poitiers qu'un derby à la maison. Contre...
Ouais, un derby, ouais, mais...
Si.
En termes de chambrage, je travaille sur Lille.
En termes de chambrage, je suis d'accord. Seb, pour finir, t'es ravi de revoir un derby, toi, sitôt?
Ben moi je suis ça m'excite en fait. Ouais. Je vois Guillaume qui est, j'ai l'impression qu'il va se suicider. Il est pas bien, il est en pleine déprime. Moi au contraire, moi ça m'excite. Et comme dit Damien aussi, le 4 janvier, voilà, ben écoute, il peut tout arriver. Voilà, tu défonces Lille pour la deuxième fois dans l'année, voilà, c'est très bien. Et puis tu pars pour un mois de janvier de dingue, et puis on verra cette deuxième partie de saison. Mais non, moi, que ce soit tôt ou pas tôt, de toute façon, si tu veux aller au bout, comme disait Damien aussi, tu es bien obligé à un moment donné, de toute façon, de rencontrer une équipe. Et là, c'est le meilleur moyen pour bien commencer l'année, parce que ce n'est pas n'importe quelle équipe. Voilà, c'est The Derby le 4 janvier. Donc, on va les défoncer. Voilà.
C'est dit. Merci Seb de ton optimisme, comme ça, ça fait du bien. On va passer au match avant le derby. Il y a quand même un match hein, mercredi, ça arrive dans deux jours là déjà, hein, Ligue 1. Dernier match de l'année civile et on va se déplacer à l'OGC Nice pour affronter les Niçois hein, qui sont coude à coude avec le Racing en termes de classement et de points. Un match où la charnière va être amputée quand même, hein, pas mal. En tout cas, on n'a pas de nouvelles de Danso pour l'instant, mais la blessure d'hier ne nous a pas rassurés. On sait que Facundo Medina va être suspendu. Est-ce qu'on doit avoir des craintes pour l'arrière-garde lensoise, qui est déjà pas super solide en ce moment? Est-ce qu'on doit craindre face à une équipe de Nice plutôt affûtée en attaque, Guillaume? Est-ce qu'on doit craindre pour la défense lensoise?
Peut-être pas finalement, parce que la défense lensoise des titulaires, hormis Grady, Danso et Medina, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc là, la défense on la connaît. Hein. S'ils peuvent pas jouer, ça va être Aïdara et puis Grady, ok. Ou on n'en a pas parlé sur le match, effectivement, hormis la mésentente avec Danso. Bon, il m'a quand même. On a parlé de Corentin Jean et c'est un joueur que voilà, j'ai plutôt apprécié sa prestation. Enfin, restons mesurés, hein, mais ça va, il m'a pas. J'ai trouvé que pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis longtemps, là encore, je le trouvais quand même dans la. Il était bien dans le combat, il avait de l'envie. Donc, moi, je ne suis pas forcément très inquiet d'avoir une défense Aïdara ou Grady avec les pistons qu'on connaît, qu'on aura, Frankowski, Klaus, et puis le milieu Doucouré, Fofana. Je ne sais pas si Kakuta, lui, sera opérationnel, de même que pour Saïd.
Mais, ça va être la question. On ne sait toujours pas Kakuta, à mon avis, pas avant l'année prochaine, j'ai l'impression. Saïd était sur le retour. Peut-être qu'il sera sur le banc, sur le banc pour le match, mais qu'il pourra peut-être rentrer en cours de.
Ce sera sûrement Pereira avec Sotoka et Kalimuendo, du coup. Enfin, l'équipe, je la verrai un peu comme ça. Ouais. Non, la défense. De toute façon, la défense, ça reste un équilibre d'équipe. Hein. Moi, je pense quand même que physiquement, on a un jeu qui demande beaucoup. Ça veut dire que quand on défend bien, quand on défend à 11 en bloc et qu'on met des pressings tout le temps, etc. Et quand on est un petit peu en dessous physiquement, on perd un ou deux dixièmes et la balle passe. Et c'est tout un équilibre qui reste un équilibre très instable et qui, en fait, du coup, si tu mets un peu moins d'énergie, un peu moins d'engagement, et ben, tu te retrouves vite avec tes 3 centraux qui subissent des vagues, en fait. Ouais. Et je suis pas forcément, c'est pas forcément les joueurs en tant que tels qui sont responsables. Ça reste un équilibre collectif, une dynamique collective. Et il faut qu'on arrive à retrouver un peu de jus pour justement refaire du lance, le lance de début de saison avec cette grinta, cette volonté de pas laisser respirer l'adversaire et puis de se projeter de se créer des occasions.
Mais surtout que Aïdara a souvent pas mal fait le taf hein, quand même en DC hein, dans les trois de derrière, même plus que je trouve qu'en latéral qu'en piston. T'es inquiet toi Thomas pour la défense lensoise de ce match de mercredi?
Après chaque match est différent, chaque fois avec la défense, ouais. Donc on peut faire des clean sheets sur 2-3 matchs d'affilée et derrière prendre 12 buts en 3 matchs. Donc on a des absences. La défense encore une fois différente du match d'avant et ça fait à mon avis plusieurs matchs où on n'enchaîne pas la même défense alors qu'on l'avait fait sur plusieurs matchs en début d'année. Voilà. Après pas inquiet parce que les joueurs à chaque fois en défense ont fait le taf par contre, soit où Aïdara et peu importe le poste. Après on n'est peut-être pas à l'abri non plus d'une surprise de Ace comme ils l'ont fait régulièrement. Ouais. De sortir un petit truc de son chapeau, mais là je vois pas d'où ça pourrait venir parce que Varane. Ne joue pas du tout. Même en...
Je ne le vois pas faire reculer Doucouré non plus. Hein,
Je pense qu'on va partir sur la compo qu'a dit Guillaume. Ouais. Que ce soit derrière et devant.
Et le petit Pereira da Costa qui fait de plus en plus son trou et qui peut encore être une bonne pioche sur ce match-là avec l'absence probable de Kakuta, Damien.
Oui, effectivement. David Pereira da Costa qui est plus qu'intéressant ces derniers temps. Du moins, quand il débute les matchs, il est vraiment très, très, très bon. On l'avait déjà vu à Marseille à 2 reprises, l'année dernière et là, cette année. Là, face au Paris Saint-Germain, s'il ne met pas son poteau, je pense que c'est une note de 10 sur 10 hein, qu'on lui donne à la fin du match. Donc, ouais, et puis c'est un joueur intéressant, justement, dans ce jeu de pressing, comme le dit Guillaume. On voit que c'est tout de suite la première flèche qui part à l'assaut avec un Flo Sotoka. Ouais, c'est pour moi il sera titulaire, c'est une quasi certitude, d'autant qu'il est peut-être sur son petit nuage là. Donc c'est le moment de le faire continuer à jouer pour qu'il acquiert justement toute la régularité et qu'il prenne conscience du haut niveau. Après, sur la charnière centrale, c'est justement peut-être le moment d'avoir quelques petites têtes fraîches avec Christopher Wu et Masa Djuaïdara. Comme le disait Thomas, sur 3 matchs, là on a pris 12 buts. Par la force des choses, on va changer les joueurs, mais ça peut être intéressant et ça peut apporter justement ce petit plus physique qui nous ferait du bien pour avoir ces petits instants de lucidité à des moments critiques. Mais, je ne suis pas forcément inquiet sur ce match de Nice. Nice n'est pas forcément très bon non plus ces derniers temps, hein.
Ah ouais,
C'est
tu
une
me
équipe
coupes l'herbe
qui
sous le pied.
est... Ah ben, je
Hein.
suis désolé, Valentin.
Mais c'est pas grave,
Mais
on va relancer le débat.
c'est
Hein,
vrai que
ouais.
c'est très compliqué pour Nice
Et
aussi
Brille
en ce
à domicile, ouais.
moment. Et même physiquement, hein, on a du mal à reconnaître une équipe made in Galtier. Mais, ça va être intéressant. C'est dernier match avant la trêve. On va peut-être lâcher quelques chevaux, même si la trêve sera très courte.
Est-ce que tu vois le Racing faire un coup à Nice, un Nice fébrile à domicile, Sébastien?
Ouais, déjà, les consultants présents, j'ai plus rien à dire. Et vraiment, tout est super bien expliqué de tous les côtés. Faire un coup, moi, ça me fait un petit peu peur quand même parce que on parlait un petit peu des joueurs émoussés. Alors après, on n'oublie pas qu'on arrive à Noël. Effectivement, il y a déjà toute une demi-saison dans les jambes. Donc effectivement, il y a un peu de fatigue. Alors tant mieux s'il y en a aussi côté niçois. Ça va pas être un match simple. Moi, ce qui va être intéressant pour moi, c'est surtout de ne pas prendre de but. Voilà, parce qu'on a besoin de se rassurer. Et puis, on sait que c'est beaucoup plus facile de gagner les matchs quand on ne prend pas de but. Donc, tous ces changements de défense, pourquoi pas du 109, effectivement. Pourquoi pas. Voilà, donc, être bien en place. Et puis, comme le disait Thomas aussi, voilà, bien, attaquer, bien défendre aussi à 11 en bloc. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, c'est un match mais je suis pas hyper serein, quoi. Je suis
Ouais.
pas au vu des derniers résultats, mais comme le sait Guillaume, et on a fait un magnifique match à Poitiers, donc du coup maintenant on est gonflé à bloc, donc on va aller gagner 1-0 à Nice en fait.
Et avec un but de Ganago qui va entrer en deuxième
Exactement.
mi-temps après son but à Poitiers et qui va crucifier son ancien club, hein, Guillaume.
Il avait marqué l'année dernière, on avait perdu
Ah oui.
2-1. Medina avait fait deux cagades et puis Ganago il a marqué. Non, c'était. Non,
Calcutta.
il avait loupé un truc incroyable, c'est Kakuta qui a marqué le péno. Ouais.
Ouais. Non, ouais, il avait raté une occasion incroyable, Ganago. Écoutez, messieurs, on verra bien du coup, et puis ça va être le temps de pronostiquer le score que vous imaginez pour ce match. On va commencer avec toi, Thomas.
2-0, doublé de Ganago sur le dernier but sur une passe de Corentin Jean.
Le prono de Damien sur ce match à Nice.
Alors, ça ne fera pas plaisir à Sébastien, du coup, on ne fera pas le clean sheet tant attendu, mais je nous vois bien gagner 2-1.
2 buts à 1, une victoire du Racing pour terminer l'année. Guillaume?
Bon, un partout.
Ouais, match nul.
Un match nul, ouais.
Et puis Sébastien pour finir.
Eh bien, je reste sur le 1-0 à l'extérieur.
Le 1-0 pour le Racing
Le
Club de
plus beau
Lens.
des résultats.
Le clean sheet et la victoire, on n'en demande pas plus. Merci messieurs. Eh ben, le rendez-vous, ce sera mercredi soir, hein, face à Nice pour le Racing. Et puis pour le match face au LOSC, ce sera le 4 janvier prochain en Coupe de France. Merci d'avoir été avec nous pour ce débrief de ce match de Coupe de France à Poitiers. Et puis pour suivre l'émission et lire nos articles et nos interviews, rendez-vous évidemment sur culturesenior.com et puis sur nos différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Twitter. On se retrouve bientôt dans Culture Senior. Merci de nous être fidèles. Je dis au revoir à tous mes chroniqueurs et puis à bientôt. Ciao, bye
Ciao.
Ciao, ciao. Merci pour le
Bonsoir.
quiz.